Les podcasts de Radio Vatican.
En France, les 11 candidats à la présidentielle étaient invités une nouvelle fois sur le même plateau télévisé ce jeudi 20 avril. Chacun avait 15 minutes d'entretien individuel et 2 minutes pour conclure afin de convaincre les derniers indécis. Une prestation importante tant le poids de ces électeurs encore incertains n'a jamais semblé si important. Parmi les nombreux débats au cœur des programmes, l'Europe a été un thème important et a cristallisé de nombreuses positions. Pas moins de 8 candidats expriment leur désir de sortir de l'Union européenne ou d'en renégocier les statuts. Mais même si le rejet de l'Europe et des institutions semble fort, l'idéal européen est encore populaire chez de nombreux citoyens. Comment expliquer ce paradoxe? Nous avons posé la question à Belling Nabli, directeur de recherche à l'IRIS à Paris.
C'est un paradoxe qui reflète en fait l'ambivalence des Français, des citoyens français à l'égard de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. D'un côté, il n'y a pas de remise en cause par rapport à l'adhésion citoyenne, populaire, démocratique au projet européen, y compris dans le cadre de l'Union européenne. Mais dans le même temps, il y a incontestablement une critique de fond populaire à l'égard d'une forme d'impuissance de l'Union européenne à répondre à un certain nombre de besoins exprimés au niveau de la population, notamment en termes d'emploi et de protection. Et c'est non pas cette contradiction, mais ce double sentiment qui nourrit à la fois l'ambivalence des Français dans leur relation à la construction européenne, et c'est cette ambivalence qui rend difficile le positionnement des candidats par rapport à la construction européenne, puisqu'il est difficile de construire un discours univoque.
On se souvient que lors du traité de Maastricht, il y a 25 ans déjà, on avait opposé les souverainistes et les fédéralistes. Est-ce que ce binôme, cette dichotomie fédéralisme-souverainisme, aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore pertinente? Est-ce qu'on peut concilier les deux?
Je dirais que c'est une grille d'analyse qui s'est renforcée avec le temps, dans la mesure où, effectivement, elle permet de mieux comprendre et de rendre lisible notre échiquier politique, dans la mesure où, par exemple, la grille de lecture classique, gauche-droite, est largement dépassée par celle qu'offre l'opposition entre souverainistes et européistes, entre guillemets, en ce sens où vous avez ces deux labels, ces deux étiquettes politiques et idéologiques dans les deux camps, à droite et à gauche, et ce qui permet aussi de comprendre des rapprochements possibles entre des candidats de droite et de gauche sur la base précisément de leur positionnement ou bien souverainiste ou bien européiste. Et donc aujourd'hui, on a notamment cette drôle d'impression parfois où finalement on retrouve des mots et des analyses relativement proches entre un Jean-Luc Mélenchon et une Marine Le Pen. Il ne s'agit pas d'englober et d'assimiler les deux candidats et les deux programmes en général, mais incontestablement, ce qui les rapproche précisément, c'est le critère de la souveraineté et de la volonté de retransférer des pouvoirs vers l'État-nation, vers l'État souverain.
C'est-à-dire que, pour bien vous comprendre, on dit souvent que les étiquettes droite-gauche, finalement, ne sont plus tout à fait opérantes dans le champ politique. C'est aussi valable sur les questions européennes?
C'est surtout valable sur les questions européennes où, encore une fois, l'opposition gauche-droite est de moins en moins pertinente. C'est une grille de lecture aussi que vous pouvez retrouver à l'échelle européenne. Ce n'est pas propre à la France.
Quelles que soient les différentes positions des candidats sur l'Europe, renégociation, sortie de l'Union européenne ou référendum, convention démocratique pour réformer l'Europe, on a le sentiment quand même que la position de la France, la voix de la France, s'est passablement affaiblie et que le ou la présidente qui sera élue le 7 mai sera vraiment en position de faiblesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat?
C'est une position de faiblesse qui ne sera pas liée à la personnalité ou même au programme propre au futur président de la République. C'est une faiblesse qui s'explique d'abord par le déclassement économique de la France dans l'espace européen, en ce sens où notre puissance économique s'est éloignée en termes de niveau de plus en plus du niveau qu'a atteint la puissance économique allemande. Et à partir de là, d'une conception assez classique de la puissance, en particulier dans le cadre européen, où finalement ce qui importe c'est l'économie, le commerce et sa faculté à imposer ses normes, eh bien les Allemands se sont imposés et ont accaparé le leadership politique du fait de leur puissance économique. Et dans cette logique-là, la France effectivement subit une forme de déclassement politique lié à son déclassement économique. Et dès lors, vous avez une forme de décalage entre le discours qui peut être tenu pendant une campagne présidentielle ou précisément dans le cadre franco-français de la Ve République, on a encore l'idée sur laquelle le président est omnipotent, et puis la réalité européenne où, par définition, tout se négocie, et en particulier la remise en cause d'un engagement aussi fort que celui formalisé par les traités européens.
Justement, fort de ce que vous venez de nous dire, est-ce que finalement les institutions de la Ve République, avec un pouvoir présidentiel fort, sont adaptés aujourd'hui au modèle européen, justement, qui est le modèle de la concertation, de la délibération.
Mais disons que c'est plutôt l'Union européenne qui a essayé de s'adapter aussi à la réalité institutionnelle et politique moderne qui se caractérise dans les démocraties occidentales par un renforcement de l'exécutif par rapport aux instances parlementaires. Et ça s'est traduit comment ? Ça s'est traduit par la création puis le renforcement progressif d'une institution comme le Conseil européen où, précisément, le président de la République française a trouvé là un cadre idoine pour représenter, incarner et parler au nom de la France. Et là, pour le coup, c'est l'Union européenne, son architecture, son mode de fonctionnement qui s'est adapté à la réalité politique des États membres et pas l'inverse. Et je dirais même que malgré le renforcement du Parlement européen, les instances de délibération issues du pouvoir souverain des États membres, c'est-à-dire finalement les peuples, demeurent en retrait par rapport aux exécutifs nationaux au sein de l'Union européenne. C'est une manière de souligner le caractère encore fondamentalement intergouvernemental du fonctionnement de l'Union européenne.
Que devra faire le ou la présidente française pour rapprocher finalement cette Europe vue parfois lointaine, cette Europe technocratique vue comme telle des citoyens français ?
Le même enjeu, à savoir cette capacité à faire la démonstration de ce que peut faire et de ce que fait effectivement l'Union européenne pour les citoyens français. Il y a une incapacité du politique à faire cette démonstration-là, qui pourtant peut s'appuyer sur des exemples et des réalisations concrètes. Et puis, deuxième échec et donc deuxième défi pour le futur président, essayer de dessiner un destin commun, non pas à l'échelle simplement nationale, mais à l'échelle européenne. Une chose que le président français ne sait plus faire depuis au moins François Mitterrand, qui lui avait assumé ce postulat sur lequel le destin de la France était lié au destin européen. Ce à quoi, progressivement, un lien qui n'a cessé d'être distendu avec le temps.
Après le Brexit, on a vu nombre de Britanniques qui semblaient avoir regretté un peu d'avoir voté oui en faveur d'une sortie de l'Union européenne, comme si c'était pas possible finalement et que du coup ce référendum était un peu un défi pour secouer les consciences. Est-ce que vous sentez en France que les citoyens français à l'approche de cette présidentielle sous-estiment aussi les conséquences possibles d'une sortie de l'Europe ?
Il faut bien préciser que finalement, à part un candidat, à savoir Asselineau, aucun ne propose d'assumer une décision unilatérale et catégorique de se retirer de l'Union européenne. Marine Le Pen ou M. Mélenchon, par exemple, lorsqu'ils parlent d'une remise en cause de la participation de la France à l'Union européenne, une telle décision, ils imaginent aussi un processus de négociation préalable et un référendum qui viendrait sanctionner le résultat des négociations européennes. Autrement dit, il n'y aurait pas de destin européen ou de destin français dans l'Union européenne qui serait lié à l'élection de dimanche prochain et puis du second tour. Finalement, le dernier mot, y compris parmi les propositions les plus radicales, reviendra au peuple souverain et pas seulement à l'occasion de l'élection présidentielle. Un autre processus est prévu par ailleurs et là, pour le coup, ça rend un peu plus compliqué à la fois et un peu moins crédible l'hypothèse d'une remise en cause de l'appartenance de la France à l'Union européenne, y compris dans le cas de l'élection d'un candidat eurosceptique.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.